allez.
Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est clair. Échec militaire dans la région de Kharkiv, échec diplomatique avec l'entrée prochaine de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN. Question, Vladimir Poutine serait-il en train de perdre cette guerre? L'Info C'est clair est intitulé OTAN Kharkiv, Poutine mise en échec. Nos invités, général Vincent Desportes, vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Vous avez été commandant de l'école de guerre et vous venez de publier « Viser le sommet » dont on va voir la couverture. C'est aux éditions de Noël. Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'IRIS, auteur de 50 idées reçues sur l'état du monde chez Armand Collin. Et François Baudonnet, vous êtes rédacteur en chef à la rédaction européenne de France Télévisions. Merci de participer à cette émission en direct. Donc, l'Ukraine peut remporter cette guerre. C'est le secrétaire général de l'OTAN qui l'a affirmé. Sur le terrain, il est vrai que l'armée russe connaît des revers. Elle a dû quitter la ville de Kharkiv, qui est la deuxième ville d'Ukraine. Sujet de Marc de Chalvron, Anaïs Sanquet et Christophe Kenk.
Avec les soldats ukrainiens dans les environs de Kharkiv, la grande ville du nord-est du pays. Même si les combats se poursuivent, l'armée ukrainienne progresse village après village et les soldats russes reculent rapidement.
Nous devrions bientôt atteindre la frontière avec la Russie, mais bon, on va voir ce qui se passe.
Partout dans cette région, on peut voir les pertes essuyées par l'armée russe, leurs véhicules militaires pulvérisés. Le village de Vilkivka, comme d'autres, a été en grande partie détruit, occupé pendant de longues semaines. Les soldats russes sont désormais partis. Le drapeau ukrainien est de retour. Les habitants osent sortir des abris, réparer ce qui peut l'être. La contre-offensive ukrainienne a commencé fin avril dans cette région. Elle s'est intensifiée au début du mois de mai. En moins de 10 jours, l'armée ukrainienne a repris toute cette zone, jusqu'à 40 km à l'est de Kharkiv. Les Ukrainiens annoncent maintenant une contre-offensive en direction d'Izium, dans le Donbass. La guerre est-elle en train de basculer? Le secrétaire général de l'OTAN ne cache plus son optimisme.
L'Ukraine tient bon. L'OTAN est plus forte que jamais. L'Europe et l'Amérique du Nord sont solidement unies. L'Ukraine peut gagner cette guerre.
L'OTAN, qui pourrait d'ailleurs bientôt s'agrandir et accueillir la Suède et la Finlande. Cette dernière a d'ailleurs officialisé ce matin sa demande d'adhésion à l'Alliance Atlantique, malgré les menaces de représailles de la Russie.
C'est un jour historique. Une nouvelle ère s'ouvre.
Les membres de l'OTAN doivent accepter les nouvelles adhésions à l'unanimité. La Turquie, qui hier se disait hostile à l'entrée de la Suède et de la Finlande, a déclaré aujourd'hui qu'elle était prête à discuter de leur candidature.
Général Vincent Desportes, on est à plus de 80 jours de guerre maintenant. Ils n'ont pas réussi à prendre Kiev et ce week-end, Le Monde titrait « Kharkiv, second fiasco de l'armée russe ». Kharkiv, c'est une ville à l'est de l'Ukraine, c'est la deuxième plus grande ville de l'Ukraine. Ils ne réussissaient pas déjà à prendre Kharkiv et maintenant les Ukrainiens sont en train de les repousser derrière la frontière. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que cette grande armée russe n'y arrive pas après deux mois et demi de guerre?
Bon, on sait qu'il y a de multiples raisons, et en particulier parce que l'armée russe, ou plutôt la Russie, n'avait pas compris quel était son adversaire et quel était l'état de ses forces armées. Au fond, ne s'était pas préparé à cette guerre et donc l'a conduit mal. Maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est que le temps joue pour l'Ukraine et joue contre la Russie, puisque plus les jours passent, au fond, plus l'Ukraine se renforce des milliards d'armements qui lui sont donnés, alors que la Russie, elle, a peu de réserves pour arrêter cette puissance qui est en train de se renforcer. Alors, ne croyons pas aujourd'hui que les affaires sont terminées. Il est clair que les Ukrainiens font un effort dans le nord et ont repris Kharkiv, effectivement, qui en fait n'a jamais été réellement prise par les Russes, mais en bas, on a toujours des attaques russes. Donc quelque part, on est à un point de stabilité, à un point de bascule. Il est clair que l'avantage, pour l'instant, semble être du côté ukrainien, mais les choses ne sont pas dites et, hélas, M. Poutine n'a pas dit son dernier mot.
Pascal Boniface, donc ça, c'est la première mauvaise nouvelle, hein, c'est que militairement, il n'y arrive pas tellement. Et sur le plan diplomatique, comment alors Vladimir Poutine reçoit-il l'entrée prochaine de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN? L'OTAN, qui est l'ennemi juré de la Russie.
Oui, il a une politique de gribouille puisqu'il a renforcé son ennemi. La Suède et la Finlande ont une tradition bicentenaire pour la Suède, depuis 70 ans pour la Finlande, de neutralité. Pendant la guerre froide, ils n'ont jamais voulu choisir entre Moscou et Washington. Et là, il dit, eh bien, notre seule protection, c'est d'adhérer à l'OTAN parce que nous craignons trop la Russie. Donc, ça a été vraiment contraire à l'objectif. Pour éviter que l'Ukraine ne rentre dans l'OTAN, Poutine a lancé une guerre qui fait que la décision de la Suède et de la Finlande est de rentrer dans l'OTAN. Et que la Russie, qui avait un peu moins de 400 km de frontière avec l'OTAN quand la Pologne y est rentrée, on a eu un peu 1200 quand les trois États baltes. Et là, avec la Finlande, c'est 1200 km supplémentaires de frontières avec la Russie que l'OTAN va avoir, ou que l'OTAN va avoir avec la Russie. Et donc, effectivement, c'est une catastrophe pour Poutine, puisqu'il va quand même devoir se justifier un jour ou l'autre, non seulement face à l'histoire, mais également face à ses généraux, à la population. Et il a échoué. Il a échoué. Et quelle que soit l'issue future de la guerre, et là, effectivement, je rejoins le général Desportes, peut-être qu'il n'a pas tout à fait perdu. Ça veut dire quoi, perdre la guerre pour Poutine, ou que l'Ukraine va gagner? Est-ce qu'il va aussi aller jusque la Crimée? Est-ce que récupérer uniquement les territoires perdus depuis février 2024? Mais en tous les cas, le poids stratégique, le prix stratégique, pardon, et le prix géopolitique que la Russie paye pour cette guerre scandaleuse moralement par ailleurs et illégale est très très lourd.
Parce qu'on a l'impression, François Baudonnet, que la gagne, elle est du côté de l'Ukraine. Jusque d'ailleurs, dans l'Eurovision ce week-end, ils ont gagné l'Eurovision comme une marque de soutien, d'empathie envers ce pays. Et je cite le ministre de la Défense ukrainienne qui dit « Cette victoire dans la région de Kharkiv, c'est un tournant stratégique dans la guerre en faveur de l'Ukraine. »
Oui, et c'est ce que nous disent nos reporters sur place, et en particulier à Kharkiv, parce que effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, l'armée russe a dû reculer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une contre-offensive ukrainienne. Ce qui s'était pas passé, c'était pas la même chose à Kiev. À Kiev, à un moment, l'armée russe est partie, mais c'était pas le.
C'était un abandon. Ils avaient décidé de partir. Là, voilà. Ils sont contraints de reculer. C'est ce que vous nous dites.
Exactement. À Kiev, c'était différent. En fait, l'armée russe a dit bon, on va se recentrer, on va recentrer nos forces, on quitte Kiev et sa banlieue. Et on a vu ce que ça a donné ensuite avec les horreurs qu'on a découvertes, en particulier à Boutcha. Mais là, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'ils étaient sur Kharkiv, ils voulaient continuer à prendre la ville et ils ont été contraints de reculer parce qu'il y avait une contre-offensive ukrainienne.
Alors justement, en se retirant, on a découvert les horreurs de l'armée russe. Je propose de voir ce reportage assez difficile. C'est dans la banlieue de Kiev et ce sont des Ukrainiennes qui racontent qu'elles ont subi des viols de la part de soldats russes quand les Russes occupaient la région de Kiev. On regarde ce sujet de Nenayem.
Dans ce village agricole de Brovary, en banlieue de Kiev, des stigmates de féroces combats laissés par l'armée russe. Des destructions, mais aussi des habitants meurtris par le traitement infligé par certains soldats. Cette femme raconte son calvaire à une journaliste américaine.
Le soldat m'a dit qu'il avait 19 ans. Je lui ai dit que j'en avais 41 et que mon plus jeune fils avait le même âge que lui. Je lui ai demandé s'il avait une petite amie. Il m'a dit oui, elle a 17 ans. Mais je n'ai pas eu de rapport sexuel avec elle. « Alors pourquoi me traites-tu ainsi ?» Il m'a répondu qu'il n'avait pas vu de femme depuis 2 semaines.
Avec elle ce jour-là, une autre femme, sa voisine, qui depuis a décidé de fuir. Car elle a non seulement subi un viol, mais son mari, ici sur la photo, a été tué à bout portant par l'un des soldats. La grand-mère restée sur place témoigne.
« Ma fille a été voir leur commandant et lui a dit « Vous êtes venu au milieu de la nuit et vous l'avez tué. Vous devez nous aider à l'enterrer. »
Une enquête a depuis été ouverte et d'après le procureur en charge, le récit de ces femmes constitue clairement des crimes de guerre. Depuis début avril, 700 viols ont été rapportés dans le pays.
Général Vincent Desportes, c'est le signe de quoi ? C'est le signe d'une armée qui n'est pas tenue, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, ou c'est le signe, malheureusement, quand vous faites la guerre, vous avez des exactions épouvantables de la part de soldats qui se comportent mal.
Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, hélas, on s'aperçoit que la Russie est beaucoup moins civilisée que nous ne le pensions. On se rappelle que Staline, qui était parfaitement au courant des viols qui étaient commis par les troupes russes, disait « il faut bien qu'ils s'amusent, il faut bien qu'ils se détendent ». Eh bien, hélas, quelque part, on s'aperçoit que ça n'a pas beaucoup changé. Ensuite, ce que vous dites est vrai. C'est une armée qui est mal tenue parce qu'elle a un encadrement de contact qui est limité et qui n'est pas de bonne qualité, ce qui est évidemment très différent, par exemple, des armées françaises. Et sur ce point, par exemple, les armées, nos soldats sont des soldats évidemment de bon niveau. Eh bien, on va les former à l'éthique, à la morale, on leur apprend le droit international, justement parce que l'on sait que la guerre va laisser s'échapper la bestialité qui est en nous. Et donc, il faut faire comprendre aux hommes, aux soldats, la limite. Et quel que soit le niveau culturel de nos soldats, il est élevé chez nous, puisque plus de la moitié ont le bac, eh bien, on va les faire travailler sur ces problèmes moraux, ces problèmes d'éthique, de manière à ce qu'ils comprennent les limites de l'interdit.
Pascal Boniface, on réalise quand même que cette grande armée russe, qui suscitait la terreur, qui suscitait aussi l'admiration, parce qu'elle avait gagné la Seconde Guerre mondiale, alors que c'était l'armée soviétique, mais bon, finalement, elle n'y arrive pas. Est-ce que Vladimir Poutine avait mal jugé son armée, et c'est le signe de quoi ? Est-ce que c'est une humiliation quand même que vivent les Russes ?
C'est une humiliation parce qu'ils ont échoué, tout simplement. Enfin, ceci étant, l'armée russe, ils ont gagné en Tchétchénie, mais à quel prix ? Ils ont quand même perdu en Afghanistan. Rappelons-nous le Kursk qui a coulé, le sous-marin qui était le fleuron de la technologie ex-soviétique qui a coulé. On a dû appeler tardivement à l'aide l'étranger pour récupérer la carcasse. On n'a pas sauvé les sous-marins. Donc en fait, l'armée russe, elle impressionne par l'image, par la taille. Mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été confrontés à une réelle situation de guerre. Et les deux guerres qu'ils ont menées en Tchétchénie, une fois encore, ont été gagnées à un prix. Et en Syrie, là aussi, ils sont opposés à qui ? Ils ne sont pas opposés à une véritable armée avec 30, 40 avions, 5000 soldats, ils ont fait la différence. Donc là, c'est quand même la première véritable situation de guerre à laquelle ils sont confrontés depuis longtemps. Et la réalité est venue heurter la réputation de l'armée russe. Et puis je rejoins le général Desportes, il y a un problème d'encadrement, effectivement, qui est très fort. Alors une armée qui est mal encadrée, dans laquelle il y a une tradition de violence, aussi bien d'ailleurs de violence à l'égard des propres soldats. La société russe n'est pas une société très paisible. Les soldats russes sont maltraités par les officiers. Il n'y a pas de sous-officiers. Et donc, si vous
c'est pour ça que le russe moyen ne veut absolument pas qu'on l'envoie sur le front en Ukraine.
C'est clair. Et il n'y a pas d'appétit pour la carrière militaire. Les conscrits, on sait qu'ils sont très maltraités. Et donc, effectivement, il y a une crainte. Il y a à la fois un très grand patriotisme. Et si on peut échapper à la conscription, on le fait avec grand plaisir. Plus le prix de la défaite, qui suscite une envie de vengeance. Malheureusement, le viol comme arme de guerre, ce n'est pas une spécificité russe. Ça existe dans d'autres pays. Alors là, je rejoins le général Desportes, toutes les armées ne pratiquent pas ça. Il y a quand même des armées qui sont solidement encadrées. Mais on a vu dans les Balkans, dans les guerres balkaniques, dans les années 90, que le viol comme arme de guerre était vraiment très largement répandu. On le voit également dans de nombreux conflits africains. Et donc tout ceci explique ces multiples actions. Alors certains vont dire c'est de la propagande. Non, quand il y a autant de cas documentés
700.
Avec des sources très différentes. On ne peut pas, comme le font les Russes, parler de mise en scène.
François Baudonnet, les Russes n'y arrivent pas, mais ils se battent contre qui ? Est-ce qu'ils se battent contre l'Ukraine ? Ou est-ce qu'ils se battent contre l'Ukraine armée, outillée, renseignée, aidée par l'Occident et notamment par les Américains. Je dis ça, c'est le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, qui a dit ce week-end « Nous avons tout fait pour éviter un affrontement direct, mais maintenant que le défi a été lancé, nous l'acceptons bien sûr. » Les Russes, ils sont en train de se dire, en fait, c'est pas contre l'Ukraine qu'on se bat, c'est contre tout l'Occident. Et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas.
Je crois que c'est exactement ça. Je crois qu'il a raison, en fait. Hein. Et vous vous souvenez qu'il y avait, il y a quelques semaines encore, des pudeurs de gazelle, on va dire, et en tout cas la peur d'être pris pour justement co-belligérants de la part des Occidentaux et en particulier de la part des Américains. Aujourd'hui, on parle beaucoup moins de la livraison des armes, des tanks, des avions, etc. Mais vraisemblablement, ces livraisons se font. À un rythme très soutenu. Je voyais que très récemment, l'aviation ukrainienne a pilonné les forces russes. Or, souvenez-vous, au début de la guerre, je parle sous votre contrôle général, on disait que le peu de l'aviation ukrainienne qui existait avait été bombardée au sol. Donc là, ça veut dire que s'il y a des avions ukrainiens qui volent, des avions de chasse, sont vraisemblablement les avions polonais qui ont été remis aux couleurs de l'Ukraine. Vous savez, on en avait beaucoup parlé. C'est la même chose pour les tanks qui sont vraisemblablement aussi en train d'arriver, les missiles, etc. Donc effectivement, derrière l'Ukraine, eh bien, il y a tout l'Occident, les Européens et surtout les Américains qui envoient des quantités d'armement à l'Ukraine.
Général Vincent Desportes, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a le courage des Ukrainiens, mais il y a la logistique américaine en Ukraine ?
Ah, c'est absolument clair. C'est absolument clair. Hier, sur un plateau de télévision, je voyais une Ukrainienne, et on la comprend dans sa passion, qui disait « mais c'est nous qui déciderons, nous, Ukrainiens, quand on fera la paix, à quelles conditions ?» Et le journaliste qui dirigeait le plateau dit « oui, mais attention, la guerre sans les Américains, vous ne pourrez pas la faire. » Et il est clair que c'est une... Et c'est pour ça aussi que c'est un peu dangereux, parce que les Américains appellent ça « a proxy war ».
Alors voilà, on a appris ce mot « proxy ». Proxy, c'est par procuration.
Par procuration.
C'est-à-dire quoi, les Américains font la guerre contre les Russes en utilisant l'Ukraine, enfin sur le terrain ukrainien.
On peut pas dire c'est pas eux qui ont provoqué la guerre. On voit bien, mais quelque part, et c'est là où
c'est la question qui peut se poser.
Où il faut avoir un peu de recul et se dire que cette guerre est devenue une guerre américaine dans les faits, puisque c'est eux qui fournissent, évidemment, avec, et c'est là où le problème est, avec du sang et de la chair à canon, je dirais, si vous me permettez l'expression ukrainienne. Mais c'est une guerre qui est conduite par les Américains et donc forcément avec des intentions américaines qui sont exprimées très clairement il y a trois semaines dans la voix du secrétaire à la défense américain Lloyd Austin en disant nous voulons en gros réduire l'armée russe à rien pour qu'elle ne puisse plus recommencer. Et c'est là où l'Europe doit exister à nouveau. Avant d'être le problème américain, c'est un problème européen. Il faut que l'Europe existe à nouveau dans cette guerre. Et se pose la question fondamentale. Aujourd'hui, il faut dépasser la bataille. Nous ne devons pas être des belligérants, les Européens doivent être des hommes d'État. Que faire après la guerre ? La guerre ne sert jamais à gagner la bataille, la guerre sert à gagner la paix qui la suit. Et on ne doit... La guerre est tout à fait déraisonnable, mais c'est la raison qui doit néanmoins conduire la guerre. Qu'est-ce que j'attends de cette guerre ? Et nous, Européens, nous savons ce que nous attendons. Nous attendons un système de sécurité qui nous donne la paix pour un certain temps. Nous ne devons pas oublier qu'en il y a 30 ans, nous avons construit un système de sécurité qui n'a pas empêché cette guerre. Eh bien, nous devons, nous, et Zelensky en particulier, doit cesser d'être un chef de guerre. Il a été un bon chef de guerre pour devenir un homme d'État et se poser la question jusqu'où ne vaut-il pas aller trop loin ?
Préparer la paix et ne pas humilier son adversaire, c'est exactement ce qu'a expliqué en début de semaine Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Strasbourg, il l'appelait à ne pas refaire l'erreur qu'avaient fait les Français en 1918, quand au traité de Versailles, nous avions humilié les Allemands, qui du coup n'avaient plus qu'une seule idée en tête, c'était de se venger. On écoute le chef d'État à Strasbourg lundi dernier.
Nous aurons demain une paix à bâtir. Ne l'oublions jamais. Et je le rappelais tout à l'heure. Nous aurons à le faire avec autour de la table et l'Ukraine et la Russie. Les termes de la discussion et de la négociation seront fixés par l'Ukraine et la Russie. Mais ça ne se fera ni dans la négation, ni dans l'exclusion de l'un l'autre, ni même dans l'humiliation. Car notre Europe n'a pas tenu la promesse de l'après-45 en 1914, parce qu'en 1918, nous avions humilié. Voilà. Donc nous, il nous faut avoir cette exigence.
Alors Pascal Boniface, ne pas refaire l'erreur de 1918. En même temps, Volodymyr Zelensky a l'air d'être furieux contre Emmanuel Macron. Il a déclaré sur une chaîne italienne « Il ne faut pas chercher une porte de sortie pour la Russie et Macron le fait en vain ». Quelles sont les relations entre les deux hommes et leur point de vue ?
Alors, pas répéter les erreurs de 18 ou ne pas répéter les erreurs des années 90. Oui. Puisque si nous en sommes là, c'est qu'effectivement, une fois encore, dire cela n'est pas excusé. La guerre que la Russie a lancée et que c'est une erreur, c'est illégal, mais il y a quand même il faut ne pas recommencer les mêmes erreurs. Et donc effectivement, parce que l'humiliation suscite le désir de vengeance. Tant que l'adversaire est faible, il ne se venge pas, mais un jour ou l'autre, il refait ses forces, et là, il se venge. Et effectivement, Zelensky, il est là sur un peu une pente ascendante. Il est devenu une icône mondiale. Il est difficile de s'opposer à lui. Et lorsque le président français émet un avis qui n'est pas tout à fait dans la ligne de celle du président ukrainien, il peut se permettre de dire « ça ne va pas » et de le chapitrer. De même qu'il peut se permettre de dire, alors que le président de la République fédérale allemande veut venir à Kiev, « non, non, je ne veux pas vous voir ». Enfin, depuis, il a changé d'avis. Et donc, on voit effectivement que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'Ukraine est en train de gagner la guerre. Ça veut dire quoi, gagner la guerre ? Jusqu'où veulent-ils aller ? Veulent-ils aller jusqu'en Crimée, jusqu'à Moscou, comme certains le suggèrent, y compris du côté américain ? Et donc, il faut peut-être voir un peu, disons que l'Ukraine... On comprend que Zelensky, qui est président de l'Ukraine, ait un agenda, mais il faut que nous, on ait le nôtre à côté. Et notre agenda n'est pas l'agenda ukrainien. Au nom de quoi devrions-nous nous soumettre à un agenda ukrainien? Nous devons être solidaires du peuple ukrainien pour l'accueil des réfugiés. C'est un devoir que l'on fait d'ailleurs plus pour les Ukrainiens que l'on a fait pour d'autres peuples victimes de guerre. Mais ce n'est pas à l'Ukraine de dire quelle doit être la conduite des pays européens. Et là, moi, je sens une pente très dangereuse parce qu'il y a une telle émotion par rapport au drame que vit la population ukrainienne que l'on accepte tout de la part de l'Ukraine, bientôt une entrée dans l'OTAN. Mais je veux dire, le peuple ukrainien, il a aussi souffert de ses dirigeants. Les dirigeants ukrainiens ont quand même de lourdes responsabilités dans la situation de leur pays. Le degré de corruption, et il paraît même qu'une partie de l'aide qui est envoyée, l'aide civile, elle est déjà détournée. Donc ça repart, etc. Toutes les armes qui sont envoyées, espérons qu'elles ne restent qu'en Ukraine et qu'on n'en retrouve pas un peu dans d'autres endroits. Et donc là, je pense que quand même que...
Attendez, c'est important parce que vous êtes tous les milliards là, de Kalachnikov, et de, ils pourront se retrouver demain dans des réseaux mafieux, voire des trafiquants. Et de même qu'on a eu des Kalachnikov là, de l'ex-Yougoslavie, on risque demain d'avoir des armes lourdes.
L'Ukraine est plus corrompue que la Yougoslavie.
Et donc, on va les voir circuler dans les années à venir, ces armes-là.
Et donc, effectivement, je crois qu'il faut un peu raison garder et voir quels sont nos intérêts à nous, Européens, par rapport à l'Ukraine.
François Bedonnet, trouver une porte de sortie, il l'assume, Emmanuel Macron, même si, on le voit bien, on le trouve un peu mou du genou à Kiev, maintenant. Et puis, les Américains sont assez... allez, on va à la gagne. Hein. Vous rappeliez le ministre américain, le secrétaire d'État à la Défense américain, qui disait il faut affaiblir la Russie. On voit bien que ce n'est plus Kiev, c'est Moscou qui est dans le collimateur.
Alors, il y a deux points, visiblement, de friction entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, qui sont assez récents. Ça date de la fin de la semaine dernière, parce que jusqu'à présent, il semblait y avoir une unité parfaite. Hein. Il disait qu'ils étaient amis, etc., etc. En fait, le premier point, c'est que il semblerait, mais l'Élysée a démenti, mais qu'en fait, lors d'une discussion, Emmanuel Macron suggérait que l'Ukraine devait savoir arrêter cette guerre et peut-être faire des concessions sur le plan territorial. Donc ce cas est évidemment tout à fait inacceptable pour Volodymyr Zelensky, qui l'a dit, mais l'Élysée a dit que c'était absolument pas ce qu'ils avaient dit, qu'il n'y avait pas de dialogue direct, par exemple, avec Poutine pour ça. Et puis le deuxième point, vous savez que Emmanuel Macron a proposé à Strasbourg la semaine dernière la création d'une communauté politique européenne qui serait une sorte de sas autour de l'Union européenne, sas d'entrée ou sas de sortie, parce qu'il y aurait aussi peut-être...
Une espèce de Ligue 2 de l'Europe.
Et là, Volodymyr Zelensky, lui, ça ne lui plaît pas du tout. Et il a dit, écoutez, en fait, par exemple, ils vont être invités au sommet européen. Il a dit, OK, c'est une famille européenne, on est invités, on sera autour de la table, mais on ne nous mettra pas de chaise, on sera debout, à côté. Et donc, ça ne lui convient pas du tout. Donc, c'est sur ces deux points précis qu'il y a des frictions, effectivement, actuellement, entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky.
Général Vincent Despentes, est-ce que s'il y a une différence d'approche entre les Français et les Allemands, qui, c'est vrai, on a l'impression, veulent trouver une porte de sortie quand même, et les Américains qui plus ça va, plus sont à l'offensive et derrière Zelensky.
Mais c'est absolument évident. Et désormais, il faut la guerre. Possiblement va être gagné sur le terrain par les Ukrainiens. Mais la guerre, ça n'est pas gagner la bataille. La guerre, c'est gagner la paix. Et donc, ce qui est important maintenant, c'est qu'on se mette d'accord sur le système de sécurité que nous voulons en commun. C'est ça qui est important. On fait la guerre pour construire la paix et pas l'inverse. Le résultat et le problème des guerres, c'est qu'en général, elles finissent par être conduites par la bataille. Et c'est là où M. Zelensky, justement, doit devenir un homme d'État. Ah. Pour l'instant, il est un chef de guerre et il est un bon chef de guerre. L'instinct combatif est fondamental dans la bataille. Il est dangereux quand on passe au niveau de la politique. Et je crois qu'il vaut mieux une paix par consentement mutuel que par une paix par destruction commune, si vous voulez. Et donc, je crois que c'est important que être jusqu'au boutiste, quand on s'appelle M. Zelensky, c'est finalement jouer contre son propre peuple. Ça ne s'appelle pas des compromis, c'est comprendre qu'il n'ira pas à Moscou demain matin, peut-être ira-t-il un jour, mais dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, pas demain matin. Il faut donner le temps au temps, et pour l'instant, il faut que cette guerre s'arrête, et que nous ne soyons pas dans les mains des Américains qui ont des objectifs stratégiques franchement différents.
Mais c'est parce qu'on a peur, nous aussi, parce qu'on est On est à une portée de missile, j'allais dire.
Mais c'est pas parce qu'on a peur. Quel est l'intérêt stratégique américain ? Clairement, c'est le Pacifique, c'est l'Asie, c'est Taïwan. Ça les embête d'être là. Et donc, ils veulent réduire la Russie au silence de manière à pouvoir régler leur vrai problème. Nous, notre problème, c'est pas ça. Notre problème, c'est la paix en Europe. Et nous savons, nous, qu'affaiblir la Russie définitivement n'est pas une bonne chose pour l'Europe. Nous aurons à vivre avec.
N'empêche, Pascal Boniface, est-ce qu'on peut, après tout ce qu'on a vu, après Boutcha, après les élucubrations de Vladimir Poutine, tranquillement aller négocier avec lui et dire ben, « on va continuer avec vous, monsieur Poutine ». Quand Joe Biden dit « pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir », est-ce qu'au fond, il n'a pas raison ? Est-ce que c'est compliqué de demain de continuer avec Poutine comme si de rien n'était ?
Alors généralement, quand on gagne la guerre, on peut changer les dirigeants. Et mettre des dirigeants qui nous sont plus favorables. C'est ce qu'on a fait après 1945, là on ne le fera pas. Là, on ne le fera pas parce que gagner la guerre, on sait qu'on n'ira pas à Moscou pour changer un régime. Par ailleurs, les derniers changements de régime auxquels on a procédé n'ont pas été des franches réussites. Il faut mieux laisser les Russes se débrouiller.
Pensez à la Libye ou à l'Irak.
Enfin, vraiment, la liste est longue. Donc, des guerres, regardez même au Mali, où ça ne se passe pas très bien, l'Afghanistan, etc.
Il ne suffit pas de faire tomber Kadhafi pour avoir une démocratie.
Donc, de toute façon, que ça plaise ou non, si on doit avoir un cessez-le-feu et plus encore une paix, c'est bien avec Poutine qu'on devra la négocier parce qu'il est au pouvoir. Ceci ne vient pas exonérer. Donc je pense qu'on n'aura pas des relations normales avec la Russie tant que Poutine sera au pouvoir du fait des exactions, des crimes de guerre qui ont été faits. Mais c'est bien avec lui que l'on devra négocier parce que la victoire totale pouvant conduire à une refondation totale du régime russe n'est pas en droit de pouvoir parce que tout simplement la Russie a des armes nucléaires. Et que donc, on n'ira pas jusque-là. Donc voilà, c'est bien un art du compromis entre l'idéal qui est de dire on va mettre un dirigeant qu'on aime bien et qui nous aime bien, et le fait de dire oui, bien sûr, Poutine a fait commettre des crimes de guerre, mais on a le choix entre continuer la guerre ou l'arrêter. Mais si on veut l'arrêter, on ne va pas l'arrêter avec Lula ou avec Narendra Modi, on l'arrêtera bien avec Poutine.
D'autant que le peuple russe semble soutenir, l'opération spéciale, soutenir également Vladimir Poutine. Comment les Russes, je vous propose d'écouter ces deux réactions de moscovites qui ont appris donc que leur pays avait été exclu de l'Eurovision. Eh bien, ils y voient une injustice et la preuve que leur pays est martyrisé. On écoute ces deux réactions moscovites.
C'est injuste, c'est une décision politisée. La politique est partout, dans l'Eurovision ou dans le sport.
Je comprends pourquoi ils nous font ça, mais je trouve ça triste, vraiment.
Et alors Pascal Boniface, il va y avoir Roland Garros. Alors justement, là aussi, la France a une approche plus conciliante, puisque les Russes, les sportifs russes ne seront pas interdits de Roland Garros. Elle l'a confirmé hier encore Amélie Mauresmo. Mais attention, ils ne devront pas soutenir l'Ukraine,
non.
La guerre, alors que Wimbledon a décidé d'interdire tous les sportifs russes et biélorusses.
Oui, alors Wimbledon a fait ça pour protéger les athlètes russes, parce que Boris Johnson voulait les laisser rentrer sur le territoire du Royaume-Uni uniquement s'ils s'engageaient à critiquer la politique de Poutine. Ce qui, pour ceux qui avaient encore de la famille en Russie, était un peu délicat. Donc ce qui a été décidé pour Roland Garros, c'est un peu la procédure normale, c'est-à-dire qu'on exclut l'équipe nationale. L'équipe nationale russe de football ne pourra pas participer, a été éliminée de la Coupe du Monde, a été exclue de la Coupe du Monde de football. Et par contre, pour les sports individuels, on permet aux sportifs russes et biélorusses de venir, mais on ne joue pas les hymnes, c'est pas la Coupe Davis, c'est pas l'équipe russe. Parce que, tout simplement, c'est la bonne raison qui l'emporte. Tous les Russes, tous les sportifs russes ne sont pas forcément solidaires de Poutine. Et les exclure au motif qu'ils seraient russes serait d'une part une discrimination et d'autre part serait donner une victoire à Poutine qui pourrait dire, comme dit ce jeune homme sur l'Eurovision, regardez, c'est politique et ça voudrait dire que tous les Russes sont forcément d'accord avec Poutine si on exclut les tennismen, tenniswomen russes et biélorusses de Roland-Garros. Si par contre quelqu'un, un tennisman ou tenniswoman venait dire je soutiens Poutine, je soutiens la guerre, là on lui dirait non, tu ne peux pas venir. Et donc je pense que c'est une solution de sagesse qui évite les punitions collectives et qui évite finalement que les Russes puissent jouer les victimes. Vous avez plein de sportifs russes qui sont contre la guerre. Mais il y en a aussi plein qui auront du mal à le dire publiquement parce que s'ils ont de la famille en Russie, c'est dangereux pour eux.
Général Vincent Desportes, au tout début, on disait on va faire des sanctions et le peuple russe va se rebeller. En fait, là aussi, on s'est trompé.
le peuple russe, finalement, il voit son pays engagé dans un conflit et il y a un élan patriotique qui fait que, finalement, il y a peu de contestation.
Ouais, et puis je crois qu'il y a surtout une grande désinformation. Je parle un peu sous votre contrôle, mais je crois que le peuple russe a une très mauvaise compréhension, une très mauvaise information sur ce qui se passe. Donc on sait bien qu'à part la jeunesse cultivée probablement des grandes villes, la majorité de la Russie écoute la télévision nationale qui lui explique qu'en fait, voilà, ils sont acculés, etc. Il n'y a pas vraiment la guerre. Et c'est pour ça que le fait que l'Ukraine, et c'est normal, aille attaquer dans la profondeur russe, enfin pas la grande profondeur, mais aille attaquer les dépôts de munitions, les centres logistiques russes en Russie, peut là amener une évolution. Parce que là, on va bien voir qu'on a des Russes qui meurent, qu'on est vraiment en guerre et qu'on ne gagne pas.
Qu'est-ce qu'on a raté en tous les cas pour que la Russie s'éloigne à ce point de nos valeurs? On a retrouvé dans nos archives de l'INA une interview de Vladimir Poutine qui date de 2000. Il venait d'arriver au pouvoir, et ben figurez-vous, son agenda, son objectif, il disait, et ben il n'est pas impossible que la Russie entre un jour, et c'était l'un de ses souhaits, dans l'Union européenne. Écoutez cette interview, c'est surréaliste. C'est bien Vladimir Poutine qui parle. Nous sommes en 2000.
Les conditions économiques en Russie aujourd'hui ne nous permettent pas de devenir un membre à part entière de la communauté européenne. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'élargir notre coopération tous azimuts avec l'Europe. Et je n'exclus pas qu'un jour, entre l'Union européenne et la Russie, on ait sur l'agenda la question de notre intégration. L'Europe reste un partenaire traditionnel clé pour la Russie, et le fait qu'elle s'élargisse ne nous crée pas de problème.
Incroyable, hein ?
Oui, mais cohérent, logique, parce qu'on peut ajouter qu'en 2002, la Russie signe un accord de partenariat avec l'OTAN et que jusqu'en 2007, Poutine voulait adhérer à cela et qu'on cite souvent la phrase de Poutine disant que la disparition de l'URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, mais aussi, il a dit aussi que la grande erreur des Russes est d'avoir fait confiance dans les Occidentaux et la grande erreur des Occidentaux, elle a pris cette confiance pour de la faiblesse. Et donc, en fait, au début, il a joué la carte européenne. Il ne dirait plus aujourd'hui que l'élargissement de l'Union européenne. À cette époque, il distinguait l'élargissement de l'OTAN et l'élargissement de l'Union européenne. Et ensuite, il a conclu que les Européens suivraient toujours les Américains. Et donc, il est rentré dans une politique beaucoup plus agressive à l'égard de l'Europe et mise en plus sur l'Asie. Mais il est certain que la Russie est un pays européen. Toute son histoire montre qu'elle est un pays européen. Et là, malheureusement, effectivement, du fait de l'agression décidée par Poutine de l'Ukraine, les liens entre l'Europe et la Russie sont durablement abîmés, coupés. Et on va atteindre, même lorsque les armes se seront tues, un degré de non-relation entre Moscou et le reste de l'Europe qui a été, je crois, rarement atteint dans l'histoire, sauf peut-être à la période stalinienne.
Et autre phrase qui paraît maintenant très, très datée, c'est... Emmanuel Macron, à The Economist, en 2019, l'OTAN est en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, l'OTAN est plus fort que jamais, au point que, pour se défendre, François Baudonnet, les Suédois et les Finlandais, ils ne font pas tellement confiance à Bruxelles ou à l'armée française. Ils font confiance à l'OTAN.
À l'OTAN,
c'est-à-dire aux Américains.
En ce sens, effectivement... On le disait au début de l'émission, en fait, c'est Vladimir Poutine qui, bien malgré lui, a renforcé considérablement l'OTAN. Il est quand même à noter quelque chose d'intéressant, c'est que les pays qui vont entrer dans l'OTAN, parce que ça prendra peut-être un petit peu de temps, quelques mois, parce qu'il y a une procédure, etc. Mais ça va vraisemblablement se faire, malgré les Turcs, pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce sont des pays qui font partie de l'Union européenne, et plus que jamais, il y a une espèce de symétrie entre l'Union européenne et l'OTAN, qui maintenant, alors ouais. Là, il y aura 32 membres de l'OTAN, l'Union européenne.
Est-ce que c'est pas une américanisation de l'Europe du coup? Si vous dites maintenant, l'Union européenne se confond avec l'OTAN, on sait très bien que ce sont les Américains qui dirigent.
États-Unis, bien sûr. Mais en tout cas, plus que jamais, ça montre que la défense européenne que la France appelle de ses vœux depuis des années, la défense européenne, pour l'instant. C'est et ça reste l'OTAN.
Moi, je pense d'abord, la question que vous posiez au début, elle est fondamentale. À la fin de la guerre, il faudra savoir pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on
parce que nous aussi, on peut peut-être s'interroger sur nous. Qu'est-ce qu'on a raté pour que les Russes développent cette paranoïa ou cette haine à notre endroit.
C'est fondamental. Et cette question devra être posée de manière sereine à la fin. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, les civilisés, puisqu'on se prend pour les civilisés, pour laisser se dérouler sur notre propre Europe une guerre barbare entre Européens? Nous sommes aussi fautifs. Et la guerre a toujours de multiples raisons. Et rejeter en permanence et complètement la faute sur l'autre est évidemment une erreur grave. Moi, je pense que nous en sommes là à cause de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que M. Poutine est l'agression, quelque part, et le fruit de la faiblesse acceptée de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. C'est l'absence de l'Europe, c'est l'absence de conscience des intérêts propres de l'Europe par l'Europe qui a fait que l'Europe s'est mis pieds et poings liés dans la politique, dans les visées stratégiques américaines, et ce qui a construit effectivement cette agressivité de M. Poutine, que je n'excuse en rien.
Oui, bien sûr, on essaie de comprendre les ressorts.
Et donc, c'est d'où la question fondamentale qu'on se pose au début, quel système de sécurité voulons-nous bâtir à l'avenir pour que ça ne se reproduise plus? Nous ne pouvons pas être fiers de nous, encore moins de M. Poutine, mais de nous non plus. D'où la nécessité absolue, non pas de laisser l'américanisation de l'Europe, mais de bien comprendre que la défense de l'Europe doit constituer un pilier autonome et décisionnaire au sein de l'OTAN, de manière à ne pas se laisser entraîner par les visées américaines qui, de plus en plus, seront divergentes pour des raisons absolument évidentes des intérêts stratégiques de l'Europe.
L'américanisation de l'Europe donc est symbolisée par ces pays qui, un par un, décident de rejoindre l'OTAN, hein, l'OTAN qui est symbole d'américanisation. On a retrouvé un autre document passionnant dans les archives de l'INA. Nous sommes en 1978. Il y a un général britannique qui dit « Attention, les pays qui sont sous influence de Moscou vont vouloir rejoindre l'OTAN. » Et ça pourrait très mal se terminer. Et il avait écrit un roman où il imaginait que la Yougoslavie, voulant rejoindre l'OTAN, ne provoque une guerre qui débouche sur le feu atomique. Et bien, nous avons retrouvé la sortie de ce livre et de ce général, nous sommes en 1978, qui avait imaginé, remplacer Yougoslavie par Ukraine, et vous avez un scénario apocalyptique. On écoute, on revient à 78.
La Troisième Guerre mondiale commence au début de l'été 1985 en Yougoslavie. Le pays s'est rapproché du camp occidental après la mort de Tito. Les soviétiques réagissent rapidement. Le 27 juillet 1985, une division de parachutistes soviétiques s'empare de Belgrade. Le président des États-Unis envoie ses Marines à Ljubljana. 24 heures après, les Marines américains combattent les troupes parachutistes russes. Cet incident donne au haut commandement russe le prétexte longtemps attendu. Ses troupes envahissent l'Allemagne fédérale et la Scandinavie. Leur objectif, le Rhin. À Moscou, les Faucons décident d'utiliser le feu nucléaire. Le matin du 20 août, un missile SS-17 explose au centre de Birmingham en Grande-Bretagne. 300 000 personnes meurent en quelques minutes. Quelques heures plus tard, deux missiles américains anéantissent Minsk en URSS. La peur de la guerre nucléaire totale déclenche une révolte des nationalités en URSS qui porte un coup fatal au système soviétique. La Troisième Guerre mondiale a duré moins de 3 semaines. Ce scénario n'est pas dû à un auteur de science-fiction, mais à l'un des meilleurs experts militaires occidentaux, le général Hackett. Le général Hackett, ancien commandant de l'armée britannique du Rhin, nous dit pourquoi il a écrit le livre publié à Londres sous le titre « La Troisième Guerre mondiale, août 85 ».
Si dans nos pays de l'Ouest, de l'Alliance Atlantique, nous ne faisons beaucoup mieux que nous ne faisons à présent pour notre défense, que dans un tel cas, notre État serait très très difficile.
Tout le monde n'est pas du même avis. Les responsables politiques de l'OTAN pensent que le général Hackett surestime le potentiel de l'armée rouge.
Général Vincent Desportes, ça fait, il faut en permanence se dire que oui, il y a un risque de dérapage, y compris là, dans ce que décrit ce général, le feu nucléaire à la fin.
Mais c'est tout à fait possible, tout à fait possible. Le chien enragé au fond du couloir, quand il n'a plus de porte de sortie, il vous saute à la gorge. Et M. Poutine, pour sauter à la gorge de l'OTAN, a 6500 têtes nucléaires, on ne doit pas l'oublier. Et quelque part, une solution assez logique dans sa tête pourrait être de frapper nucléaire tactique, s'entend.
C'est quoi le nucléaire tactique ?
Des petites armes nucléaires, petites, qui créent beaucoup de milliers de morts, mais des petites armes qui sidéreraient complètement l'opinion. Donc il n'est pas en mesure d'aller attaquer l'OTAN aujourd'hui, compte tenu de l'état de ces armées, mais quelque part l'utilisation de ces, ce serait un game changer, un changement de donne complet et auquel il est, il pourrait être logiquement conduit à d'user. Et alors, je crois qu'il faut se rappeler, il y a eu plusieurs crises très dures entre l'Ouest et l'Est pendant la guerre froide, mais qu'en permanence, ni l'un ni l'autre, les deux acteurs ont cherché à ne jamais acculer l'autre complètement, de manière à lui laisser une porte de sortie. C'est une grande leçon d'histoire. Et si on ne l'avait pas suivi, peut-être ne serions-nous pas ici, aujourd'hui. Donc il faut s'en souvenir.
Pascal Boniface, c'est vrai que du temps des Soviétiques, on a l'impression qu'il y avait, comme on dit, une grammaire, il y avait un politburo, il y avait des règles. Aujourd'hui, on a l'impression d'un Vladimir Poutine seul et du coup, bah, assez imprévisible parce qu'on le croit rationnel et il a envahi l'Ukraine contre toute rationalité.
Il ne faut pas le pousser à l'extrémité. Et en fait, dans tout autour de la guerre froide, il y a eu plusieurs guerres de proxy war, comme on vient de voir celle-ci. Mais à chaque fois, les deux superpuissances se sont mis d'accord pour ne pas laisser les proxys décider du sort de la guerre.
Les pays par procuration, le théâtre du conflit.
Donc les pays alliés. La ligne directrice pendant toute la guerre froide, quelles que soient les vicissitudes, c'est dire il ne faut jamais que nos alliés, que l'on soit entraîné contre notre gré dans une guerre parce que nos alliés nous y entraînent. D'où d'ailleurs la défiance des Américains à ce que la France ait l'arme nucléaire, la défiance des Soviétiques à ce que la Chine ait l'arme nucléaire. Et à chaque fois, en 1973, lorsque tout d'un coup la guerre s'est redéclarée entre Israël et les pays arabes, Washington et Moscou se sont mis d'accord pour dire que ça n'a pas allé plus loin parce qu'on ne doit pas être entraîné par cette opposition. Et Cuba a été désavoué en 1962 par Moscou qui a dit non, on retire les armes nucléaires. Et donc c'est nous, à chaque fois, c'est nous les patrons. Et on ne se laisse pas entraîner contre notre gré par un allié qui veut aller plus loin. Et là, je crois qu'il est temps, effectivement, l'Ukraine soit, enfin, qu'on ne soit pas entraîné comme cela contre notre gré. Alors, bien sûr, il y a une grande part de bluff de la part de Poutine parce qu'il veut nous faire peur. Mais je pense qu'on ne peut pas dire ça ne s'est jamais produit, ça ne se produira pas. Il faut quand même rester très vigilant par rapport à cette conduite. Il y a quelques déclarations malheureuses du côté américain qui ne vont pas dans le bon sens.
C'est-à-dire qu'il pourrait conduire
en fait,
des provocations.
Disant que le but est de vaincre la Russie, que Poutine ne doit plus rester au pouvoir. Quand on fait ça, après, par quel moyen on obtient ce résultat?
Parce que ça, il l'a dit, si l'intégrité de la Russie est menacée, là, nous sommes légitimes à utiliser...
C'est l'essence même de la dissuasion. L'arme nucléaire protège le sanctuaire national, les intérêts vitaux. C'est pareil pour tous les pays qui ont l'arme nucléaire, effectivement.
Et comme Poutine s'identifie à la Russie, il peut considérer que si on cherche à le destituer, Russie est...
Parce que tout simplement, on ne change pas le gouvernement d'un pays parce qu'il nous déplaît et que le changement de régime par l'extérieur est effectivement quelque chose qui est, disons, suscite de graves désaccords et peut susciter des catastrophes.
François Baudonnet.
Ce qui est incroyable dans le reportage là, que vous avez montré, donc, qui date de 1978, c'est en particulier l'interview du général britannique qui dit, en fait, si on ne fait pas attention, ça va mal se passer. Et en fait, ça n'a jamais été écouté dans les décennies qui ont suivi.
Les Européens, suite à la chute du mur.
Suite à la chute du mur, les Européens se sont dit, de toute façon, il n'y a plus de danger venant de l'Est. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir des armées fortes. Donc, ils ont réduit les budgets militaires. Quand il y avait... parfois des militaires, mais même parfois des politiques qui disaient « Non, attention, il faut augmenter notre budget militaire. » Non, mais on disait « Attention, ce sont des va-t-en-guerre, des bellicistes. De toute façon, il n'y a plus de problème. Éventuellement, il y a des problèmes. Il faut se protéger du terrorisme sur notre sol, mais absolument pas sur ce qui arrive à l'Est. » Et je crois que les Européens n'ont vraiment pas vu ce qui était dit quand même. Il y avait un certain nombre de personnes qui le disaient depuis plusieurs décennies, dont ce général britannique.
Et le résultat de ça, c'est un peu cette guerre-là. Le résultat de ce désarmement de l'Europe, c'est on se met dans les mains des Américains, c'est Robert Kagan, hein, c'est Vénus et Mars, etc. Et on sort de l'histoire, on se met sous l'emprise des Américains qui ont des intérêts différents des nôtres. C'est pour ça qu'il faut que l'Europe existe, c'est absolument fondamental. Notre meilleure assurance paix, c'est la prise de conscience de l'Europe, de ses propres intérêts.
Mais là, on n'en prend pas le chemin. Enfin, tout le monde s'équipe en F-35 américain, tout le monde va à Washington pour dire tiens, on va rentrer dans l'OTAN. Plus personne ne rêve de l'Europe stratégique de défense d'Emmanuel Macron.
Mais il y a deux choses différentes. Il y a l'alliance occidentale qui est fondamentale. D'accord. Évidemment, les deux grands piliers qui sont l'Amérique et l'Europe doivent être absolument unis
et, on en a besoin.
Et alliés. Ce qui ne veut pas dire que les pays européens doivent être les vassaux des États-Unis. Et pour qu'on puisse négocier...
C'est subtil quand même, hein.
Ah non, c'est pas subtil du tout. Non. Il faut que nous avons des intérêts stratégiques divergents et qu'ils le seront de plus en plus. Il faut que cette prise de conscience se fasse de manière à admettre que nous puissions être alliés, mais non vassaux, ce que nous sommes actuellement. Est-il raisonnable que l'Europe, la plus grande puissance économique au monde, soit à genoux en permanence pour aller demander de l'aide aux Américains et que nous ne soyons pas suffisamment mûrs pour être capables de régler nos propres problèmes tout seuls? Non, ça n'est pas raisonnable. Alliés, oui, bien sûr, très fortement. Vassaux, non.
Pascal Boniface, est-ce que si, on voit très bien, on a peur de Vladimir Poutine parce qu'il a le feu nucléaire et on ne cesse d'en parler, et il ne cesse de le rappeler. Est-ce que la leçon de ce conflit aussi, c'est qu'avoir l'arme nucléaire, ça vous donne un atout maître qui calme le voisin? Je dis ça par rapport aux pays qui cherchent à avoir l'arme nucléaire comme l'Iran et qui doivent se dire finalement, si je veux la force de Poutine, il me faut la bombe.
C'est clair, certains disent en Ukraine d'ailleurs que l'Ukraine a renoncé aux armes nucléaires parce qu'à la dissolution de l'Union soviétique, il y a les armes nucléaires au Kazakhstan, en Biélorussie, en Ukraine et donc en Russie. Les trois autres ont renoncé à leurs armes nucléaires et l'Ukraine y a renoncé en échange d'une protection qui n'est jamais venue. Et effectivement, si l'Ukraine a eu des armes nucléaires, Poutine n'aurait jamais lancé la guerre. Regardez le sort, pourquoi y a-t-il des armes nucléaires en Corée du Nord? Parce que Kim Jong-un se dit que si Saddam Hussein et si Kadhafi avaient l'arme nucléaire, il serait encore vivant et au pouvoir. Et donc par rapport à ces menaces nucléaires de Poutine, il va y avoir deux mouvements à la fois contradictoire et convergent. C'est que beaucoup de pays vont se dire « Mais finalement, si j'avais l'arme nucléaire, personne ne viendrait m'embêter. » Et il va y avoir une très forte poussée en faveur du désarmement nucléaire parce que beaucoup de gens vont se dire « C'est trop dangereux. On ne peut plus se permettre, on ne peut plus vivre sous cette menace que tout d'un coup, un dictateur qui perd la guerre lance le feu nucléaire parce qu'il est en dehors de contrôle. » Donc vous allez avoir à la fois un appétit, effectivement, de certains pays qui se sentent menacés pour avoir l'arme nucléaire, ce qu'on appelle la prolifération, et d'autres...
Les mouvements pacifistes.
Un mouvement pacifiste qui s'était un petit peu éteint, mais qui va reprendre certainement de la vigueur quand cette guerre sera passée, parce que la menace de Poutine d'utiliser l'arme nucléaire pour qu'on lui foute la paix restera quand même dans les mémoires collectives.
Vous êtes surpris, général Vincent Desportes, c'est vrai, du retour du nucléaire. Au fond, il y avait eu des tas de conflits, on ne parlait, le mot n'était jamais prononcé, et le jeu, la carte n'était jamais agitée. Et là, on en reparle. Alors, on s'aperçoit que dans les années 80, on en parlait beaucoup, hein, mais ça faisait 25 ans que...
30 peut-être ans. 25 ans, enfin, on en a parlé. La crise de Cuba, ça existait. La crise de Suez, dans laquelle il y a eu une menace,
mais etc. Depuis la chute du mur, on n'en parlait plus.
Oui. Pourquoi? Parce que, comme disait Obama, le président Obama, la Russie est une petite puissance provinciale qui n'a plus d'importance, et quoi qu'il arrive, elle fera ce qu'on nous dit. Mais aujourd'hui, d'abord, l'armement nucléaire soviétique qui s'était beaucoup dégradé est revenu à un niveau qui le rend tout à fait fiable et crédible dans son opérationnalité, ce qui n'était pas le cas. On se rappelle des sous-marins russes dans les ports, etc., et qui étaient en train de couler.
Là, ils ont les fameux missiles hypersoniques qui vont à 20 000 km/h.
Non seulement, mais ils ont un avantage de 3 ou 4 ans en technologie par rapport à nous. Donc, c'est effectivement une vraie menace. Un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on a cité des crises, mais dans lesquelles il y avait un arbitre. L'arbitre, c'était États-Unis, la guerre de Kippour, par exemple, ou Suez. Il y a les États-Unis et l'URSS, mais là, il n'y a pas d'arbitre. Et l'un des deux belligérants est équipé de l'arme atomique. Donc, on est dans une situation qui est assez nouvelle, très nouvelle d'ailleurs, par rapport à toutes les crises qui sont arrivées depuis la chute du mur.
François Baudonnet, il se sent... Donc, la France est attendue sur ce dossier, de par son statut de nucléaire, et puis président de l'Europe... Emmanuel Macron, finalement, s'est imposé un peu comme le capitaine des intérêts européens à l'occasion de ce conflit, de cette guerre en Ukraine.
Oui, il s'est beaucoup mis en avant. Alors, avant la campagne électorale pour la présidentielle, pendant la campagne, il s'est évidemment mis un peu de côté. Et là, effectivement, depuis sa réélection, il est très attendu. Il revient sur le devant de la scène. Alors, il n'est pas tout seul. Il y a aussi l'Allemagne, évidemment, qui est très attendue. L'Allemagne a un rôle absolument essentiel, un rôle pivot.
Alors, elle va devenir militaire, l'Allemagne. Ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. Et elle va peut-être être plus puissante que nous, cette armée allemande, si elle dépense effectivement 2% du PIB.
Oui, alors d'abord, ça ne sera quand même pas du jour au lendemain.
Ouais.
Parce que même les milliards d'euros qu'ils ont décidé d'investir dans leur armée, dans la Bundeswehr, ça va se faire petit à petit.
Hein. C'est 15 ans.
Donc c'est pas pour tout de suite. Mais c'est vrai qu'en tout cas, l'Allemagne va avoir un rôle important à jouer. Et Emmanuel Macron aussi. Vous savez qu'on avait parlé du fait qu'il pourrait se rendre, par exemple, à Kiev. Et du côté de l'Élysée, on dit... le président de la République ira là-bas uniquement si c'est utile. Et finalement, vous avez vu, en fait, tout le monde est allé à Kiev pour l'instant. Et peut-être la façon de se différencier pour l'instant, c'est peut-être justement de ne pas y aller, à moins, effectivement, d'avoir quelque chose d'utile à annoncer. Et c'est sûrement ce qu'attend aujourd'hui le
président. C'est un signe quand même, hein, le fait qu'il n'y aille pas à Kiev, ça montre qu'il y a peut-être un agacement à l'endroit de Volodymyr Zelensky, non ?
Oui, mais c'est de la gesticulation. Aller à Kiev, on peut se parler. Enfin, il y a une mise en scène. D'une part, ça gêne quand même, ça demande des procédures de sécurité, etc. Il y a eu beaucoup de mise en scène quand même dans la visite à Kiev, qui est aussi une façon de se faire prendre en photo pour certains, parce que comme Zelensky attire la lumière, on veut être à côté de la lumière.
Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission à l'Info C'est Clair, disponible en podcast audio gratuitement sur toutes les plateformes. Vous restez sur France Info et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée, à demain.